Espace 2.
À 28 ans, il est un trader fortuné de la banque Indo-Suez et la concurrence lui fait des ponts en or pour tenter de le débaucher. Mais le Golden Boy décide de tout plaquer pour devenir moine à l'abbaye de Tamier près d'Albertville. Il se reconvertit dans la fabrication du fromage et une vie de prière. Et il ne regrette rien. À Vue d'Esprit est avec Henri Quinson toute la semaine. Bienvenue pour cette seconde émission autour du moine des cités. Françoise Yenny en signe la réalisation.
À Vue d'Esprit. Pierre-Yves Moret.
Sabine Petermann, c'est vous qui nous proposez cette semaine cette rencontre avec le moine des cités. Vous êtes allé le rencontrer à Marseille, où il vit depuis 12 ans dans une fraternité, en plein cœur des cités. On peut d'ailleurs déjà préciser qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Moine des cités, de Wall Street au quartier nord de Marseille », dont vous trouvez les références sur notre site internet religion.rsr.ch. Alors hier, pour la première édition de cette série, nous entendions Henri Quinson parler de son parcours spirituel et du tournant qu'il a pris il y a une vingtaine d'années en quittant le monde de la finance dans lequel il avait un poste à responsabilité plutôt confortable.
Oui, un itinéraire atypique qui passe d'un extrême à l'autre, une vie luxueuse où il gagne beaucoup d'argent, mais paradoxalement une vie dans laquelle il ne se sent pas pleinement heureux, il lui manque quelque chose. C'est à travers l'expérience de la prière qu'il se sent appelé à autre chose.
Alors autre chose, ça veut dire justement la vie monastique, un changement radical.
Oui, il quitte tout, absolument tout, pour rejoindre les frères de l'abbaye de Tamier, près d'Albertville. Un lieu de méditation, un lieu de simplicité dans lequel il va passer 6 ans de sa vie.
Et c'est une communauté de tradition catholique.
Oui, catholique. Ce sont des moines cisterciens. Ils sont environ une trentaine à vivre sous la règle de Saint-Benoît, une règle qui date du 6e siècle. Alors la règle, si vous voulez, c'est le cadre que se donne la communauté pour vivre.
Alors aujourd'hui, vous vous entretenez justement avec Henri Quinson autour de la question de cette vie monastique.
Oui, pour Henri Quinson, la vie monastique est un grand saut dans le vide, sans filet, et il revient sur cette aventure décisive.
J'ai démissionné de la banque, je vais partir et je dis, c'est comme si j'étais dans un avion qui va décoller. Tout d'un coup, j'ai un peu envie de sortir de l'avion, mais c'est trop tard. Les portes sont refermées, j'ai pris ma décision, je pars. Et je regarde autour de moi et dans l'avion, il y a ceux qui sont habitués à prendre l'avion. Et pour eux, ça a pas l'air de poser problème. L'avion va décoller, il va arriver à bon port. Je suis obligé de faire confiance au pilote. J'ai choisi ma ligne, j'ai fait un choix, mais après... Il faut faire confiance, et on est plusieurs. Et donc je crois qu'il y a quand même cette attitude qui, c'est vrai, va peut-être à l'encontre de notre désir de sécurité absolue, mais c'est illusoire, cette sécurité absolue. Là aussi, les histoires d'amour, c'est pareil. Quand on s'engage avec quelqu'un, comment peut-on savoir s'il ne va pas vous trahir, s'il va être le même pendant toute sa vie? A priori, certainement pas. Et vous-même, donc c'est une aventure, c'est un saut dans le vide. Toutes les décisions humaines, celles d'un investisseur qui se dit « voilà, je vais investir dans telle entreprise », bon, toutes les analyses montrent que c'est un bon choix, mais bon, on n'a jamais 100% de certitude. Donc à un moment donné, il faut vivre. Vivre, c'est se lancer. Et donc, alors c'est vrai qu'on est à plusieurs, et ça, c'est une dimension. C'est vrai que j'ai découvert progressivement, je dirais qu'au début, ma conversion a été très, très personnelle. Cette découverte de la prière, c'était dans ma chambre. Alors, j'allais à l'église, mais généralement, je mettais derrière un pilier. C'était finalement une démarche assez solitaire. D'ailleurs, je n'arrivais pas à en parler à quelqu'un d'autre. Il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à parler et puis à vivre de manière délibérée avec la certitude que... à plusieurs, comme un feu prend mieux quand il y a 3 bûches plutôt qu'une, on avance de manière plus assurée, parce que les gens vous renvoient aussi ce qui relève d'une spiritualité égocentrique, fantasmée. Donc ça, c'est très important. Et je pense que ça se traduit bien par les versets qu'on trouve dans nos magnifiques évangiles ou dans les lettres de Saint Jean. C'est que c'est Saint Jean qui dit « Celui qui dit qu'il aime Dieu et qui... déteste son frère, est un menteur. » Donc c'est extrêmement fort. Parce que le mot menteur, c'est le diable qui est un menteur. Donc c'est vraiment diabolique de dire qu'on croit en Dieu, qu'on aime Dieu, alors qu'en fait, on n'aime pas son frère. Et donc on voit bien que le frère est le gardien et le meilleur le meilleur baromètre pour savoir où on en est de notre prétendu amour de Dieu. Et de ce fait-là, donc, une communauté, ça aide. La communauté aussi peut se tromper. Nous-mêmes, on peut avoir aussi un rôle par rapport à la communauté. Mais il reste que si on vit avec 35 bons hommes, il y a sûrement un certain nombre de personnes qui ont des choses à vous dire. D'ailleurs, des choses agréables aussi, hein, à vous dire. Ah bah tiens, c'est formidable, tu as tel et tel talent, grâce, etc. J'apprécie ça. C'est un encouragement aussi, hein, c'est pas purement négatif. Et peut nous inviter aussi, ou par les limites ou les défauts des uns et des autres, nous oblige aussi à progresser. Donc ça, c'est des chemins de croissance humaine qui sont très importants et qui sont peut-être souvent, malheureusement, mis un peu de côté dans une culture très individualiste, y compris dans nos églises, où finalement les gens vont être assez consuméristes, vont chercher le bon prédicateur parce qu'il est agréable à nos oreilles, au lieu de vivre une vie communautaire où, bah oui, il va y avoir la vieille dame qui nous casse les pieds, telle personne qui n'est pas cultivée alors qu'on voudrait que les gens parlent bien, etc. Parce que c'est ça qui nous fait grandir aussi. Donc faut vraiment entrer dans la grâce du pauvre, de la faiblesse, y compris de sa propre faiblesse. Et je pense que cette expérience, c'est forcément une expérience de relation aux autres. Et donc, la vie monastique, pour ça, la vie cénobitique, donc en commun, selon la règle de Saint-Benoît, elle est assez terrible. C'est comme la vie de famille. C'est-à-dire, quand on vit ensemble pendant des années et dans un espace relativement réduit, les masques tombent. Et donc, on est obligé, là, vraiment, au-delà des beaux discours sur Dieu ou les vertus qu'on voudrait acquérir, on est obligé d'entrer vraiment dans la vie de la grâce, qui est d'accueillir nos limites, nos fragilités, et en se disant que vraiment, justement, Dieu est là dans nos blessures.
Il y a des moments où on ne supporte plus quelqu'un, où il y a de la violence, où il y a de l'agressivité dans la vie communautaire.
Une fois, j'ai demandé à un vieux moine, bon, la vie communautaire, c'est quoi le plus dur? Et ce frère m'a dit, c'est le pardon. Et je lui dis, mais toi, tu as eu beaucoup de choses à pardonner. Il m'a dit, j'ai tout vu sauf le meurtre. Et plus on vieillit, plus on voit les choses. Voilà, il peut y avoir tel frère qui, parfois pour des raisons médicales, est devenu insupportable. Déjà quelqu'un, je ne sais pas, qui a beaucoup de tension et qui a tendance à s'énerver pour un rien. Et on est obligé aussi de porter un regard de miséricorde. Ça ne veut pas dire tout accepter, hein. Donc il y a aussi des choses à se dire. Voilà. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, dans une vie communautaire monastique, ça, les gens de l'extérieur, sans doute, idéalisent beaucoup ces communautés. Mais ces communautés, ce sont des communautés faites d'hommes ou de femmes. Et voilà, les gens, avec leurs limites, leurs défauts. Souvent, les novices, quand ils arrivent dans les monastères, pour eux, tous les frères sont des saints. Et puis, généralement, quelques années après, ils considèrent que c'est tous des suppôts de Satan. Et puis, dans une troisième phase, ils découvrent que c'est des êtres humains, comme les autres, voilà. Avec, effectivement, des frères qui ont tel ou tel talent, et puis aussi des limites, voilà. Mais c'est important de passer par là, justement, parce que Dieu est... Le surnaturel, c'est ça, c'est quand même accueillir, justement, notre fragilité, notre faiblesse. Et on est très, très loin, à ce moment-là, de toutes ces conceptions d'un Dieu, et donc de l'homme, qui serait une espèce de Superman, quoi. Et c'est ça qui est formidable dans le christianisme, c'est de tenir cette équation parfaite où Jésus est Dieu, et qu'en même temps, c'est le Dieu le plus faible qu'on puisse trouver sur le marché des religions. C'est incroyable, cette équation. C'est d'une justesse, d'un équilibre qui ne peut que nous faire poser la question, mais est-ce que ce dogme ou ce mystère de l'incarnation pascale de Jésus, le fait que Dieu soit venu habiter parmi nous et habiter jusqu'à mourir injustement sur une croix à cause de ses propres créatures, soit c'est un conte pour enfants, soit c'est vrai, et si c'est vrai, c'est un Dieu absolument... on pourrait dire presque incroyable, mais tellement bouleversant et tellement transformant pour l'homme qui entre à ce moment-là dans une autre logique que la toute-puissance.
Henri Quinson, est-ce qu'il n'y a pas des moments où, durant ces 6 années de vie communautaire, vous n'avez pas regretté votre ancienne vie ?
Ça, c'est une vraie question qui m'était posée par ma mère. Comment se fait-il que tu aies fait de belles études pour aller fabriquer du fromage au fin fond du massif des Bauges ? Voilà. C'est une excellente question. Moi-même, je me la posais. Il se trouve que si on a la force pour prendre une décision et qu'on est capable de la maintenir dans la durée, ça veut dire aussi quelque chose. Ce que je pense, c'est que trop souvent, on a une vision un peu de la vie chrétienne comme des tâches à accomplir, des normes à respecter. Et finalement, un beau jour, on a fait un grand choix et puis ça y est, tout est réglé. On s'est marié, donc voilà, on a trouvé la femme ou l'homme de sa vie. Il ne reste plus qu'à élever ses enfants et tout va bien. Ben non, en fait, il y a beaucoup d'étapes parce que ce n'est pas du tout pareil d'être jeune marié, d'avoir des enfants. On va peut-être avoir, je ne sais pas, un enfant handicapé. Peut-être qu'il va y avoir un décès, peut-être qu'on va se retrouver veuve. Enfin, il y a énormément de surprises sur le chemin. Et mieux vaut se dire que toutes ces surprises ne sont pas des parenthèses par rapport à une vie normale, mais se dire que la vie, elle est là. Donc, je crois qu'il faut être ouvert à l'idée que, bon, il peut y avoir des étapes. Moi, je suis entré dans la vie monastique en me disant, j'entre dans la vie monastique. Je ne me suis pas dit, voilà, moi, je vais faire 6 ans ici, et puis après, j'irai à Marseille. Non, c'était une aventure. Et là, je crois qu'aussi les jeunes ont besoin d'entendre que la vie chrétienne, c'est-à-dire la vie tout court, c'est une aventure. Nous ne sommes pas des fonctionnaires du culte. On ne peut pas dire, voilà, à tel âge, je prendrai ma retraite et je toucherai tant et j'habiterai une petite maison à tel endroit. Ce n'est pas du tout le plan de Dieu de ça. Certaines personnes peuvent vivre comme ça et c'est pas mal. Mais il faut bien faire des projets, il faut bien avoir une certaine visibilité à une certaine échéance, comme quand on conduit en voiture. Mais il se trouve que, bon, les étapes du voyage font qu'on va aller dans telle ou telle direction. Donc, moi, j'étais parti avec ces questions. Je crois quand même que ce que je cherchais à ce moment-là, c'était vraiment un enracinement à la fois dans la prière, donc une dimension mystique de ma foi, et puis aussi un enracinement culturel, théologique, et une expérience communautaire de la recherche de Dieu. Et donc le travail, finalement, pour moi, avait sa place. Et j'étais d'ailleurs assez content alors, de faire du travail manuel, puisque c'était surtout du travail manuel qu'on faisait dans la tradition donc, de la règle de Saint-Benoît. Donc c'est assez équilibrant. Mais en même temps, une bonne partie de ma vie, c'était aussi les offices. Donc il y a 4 heures de prière chantée, c'est énorme. Un professionnel du chant, paraît-il, ne fait pas 4 heures de chant tous les jours.
Et 4 heures en plusieurs étapes, en 6 étapes différentes, y compris au milieu de la nuit.
Voilà, il y a 6 offices de jour, plus un office de nuit. Donc ça fait quand même 7 offices par jour. Offices. Voilà, donc ça rythme la vie vraiment de manière très prégnante. Un peu comme une femme qui doit se lever le soir ou un mari parce que les enfants, à un certain âge, se réveillent régulièrement. Voilà, c'est très prenant. Donc ça, c'est quand même pas anodin. Et donc le travail, bah, là aussi, la comparaison avec des parents, des jeunes parents, est aussi bonne. C'est-à-dire que bah, quand il faut se lever pour donner le biberon à un enfant, voilà, c'est la réalité qu'on vit. Et donc bah, peut-être que pendant un certain temps, il faut mettre un peu en sourdine sa vie professionnelle. Mais ça veut dire aussi que bah, voilà, la vie professionnelle a toute son importance, mais qu'en même temps, tout ça est modulable justement en fonction des étapes dans son existence. Et moi, je crois qu'à l'époque, cette vie monastique m'a permis de me reconstruire des bases qui sont celles sur lesquelles je vis encore. En particulier, les offices que nous avons ici à Marseille depuis 1997 sont largement inspirés des offices monastiques de Tamiers. Et mes habitudes profondes, la lecture de la Bible le matin, certains retours vers le silence, par exemple, une fois par semaine, nous prenons une journée de désert, tout ça s'est enraciné dans une expérience que j'ai faite. Donc la vie monastique, c'est aussi une formation, comme l'université peut être une formation. Et dans le bouddhisme, par exemple, en fait, il y a très peu de moines qui restent moines toute leur vie, mais il y a une forte proportion de gens qui vont au monastère pour 3, 4, 5, 6 ans, parce que ça fait partie de leur formation humaine de fond. Et on a peut-être perdu cette formation, justement, en Occident, en tout cas en France, à cause d'une super sécularisation dans laquelle, finalement, la théologie, l'intériorité, tout ça n'est plus appris par des grandes institutions. Et si ça n'est plus fourni dans le domaine familial, bah, finalement, c'est une partie de nous-mêmes qui est atrophiée. Et moi, je crois que j'ai trouvé au monastère cette manière de faire ressusciter aussi toute la dimension religieuse de mon être, et j'avais besoin de ça. Et ce que j'étais mûr à l'époque pour me lancer à la création d'une petite communauté en cité HLM, honnêtement, je ne crois pas du tout. Et je me suis laissé vraiment guider, c'est-à-dire j'ai essayé d'être le plus vrai dans ma quête personnelle, sans forcément voir comment tout cela allait se dérouler dans le temps. Mais arrivé à un certain point, compte tenu de tous les éléments objectifs et subjectifs que je pouvais avoir, il m'a semblé que la décision, c'est que je ne pouvais pas rester au monastère et qu'après, la décision, c'était, il ne s'agissait pas simplement de trouver un monastère où je pourrais avoir 8 heures de sommeil, mais qu'il y avait une question plus profonde qui était liée à cet appel, qui était en fait cette image de Marseille. Et c'était un concours de circonstances qui fait que je me suis retrouvé à Marseille, donc c'était assez étrange pour moi que ce soit si précis. Et en fait, le fait de pouvoir durer 12 ans ici montre aussi que, alors je ne peux pas juger évidemment de la suite des événements, mais ça veut bien dire que on peut pas rester 12 ans dans un style de vie s'il n'y a pas quand même quelque chose qui vous tient très profondément.
La règle de Saint-Benoît prévoit 7 prières par jour et vous vous êtes assez rapidement retrouvé en manque chronique de sommeil. Alors pourquoi ça n'a pas été possible de simplement sauter la prière de nuit pour vous permettre de dormir ?
Ça, c'est une question à poser au père abbé de l'époque et à la communauté, que je leur ai carrément posée, puisque je leur ai dit, moi j'ai fait mes petites études sur le plan médical et également dans la tradition bénédictine. Il se trouve qu'avec les heures romaines, justement, la règle de Saint-Benoît prévoyait que les moines aient des temps de sommeil plus importants. Bon, donc là, voilà, il y a eu débat, le débat a été tranché, il n'y a pas eu de réforme dans le sens que je souhaitais ou pas d'aménagement personnel, donc ça, on peut en discuter, mais c'est plus à moi d'en discuter. J'ai par contre essayé de, dans la mesure du possible, que ce débat ait lieu en me disant qu'il était utile aussi pour la communauté, pour l'Église, et qu'il y avait un véritable enjeu anthropologique, enfin, qui est la question que vous soulevez. Après, à titre personnel, je pense qu'une des grandes difficultés de l'Église à travers les siècles, c'est de tomber dans un mauvais judaïsme, c'est-à-dire un judaïsme qui serait un judaïsme de l'observance pure et simple, que Jésus dénonce à toutes les pages de l'Évangile, me semble-t-il. C'est-à-dire que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ça, c'est pas Henri Quinson qui le dit, c'est Jésus. Et ça me paraît extrêmement profond. C'est-à-dire que la religion, le culte, la morale, normalement, c'est pour l'homme. C'est pas l'homme qui est fait pour toutes ces choses-là, aussi élevées soient-elles. On pourrait même presque dire que l'homme n'est pas fait pour Dieu et que Dieu souhaite que Dieu soit fait pour l'homme. Parce que c'est sa plus grande joie, c'est que l'homme soit parfaitement lui-même. Ça choque certainement beaucoup de gens religieux quand je dis ça, mais je le crois profondément. Et presque, on pourrait presque se risquer à dire que justement Dieu n'est pas tout. Il ne souhaite pas qu'il soit tout. Il veut que nous ayons pleinement notre place. Bon, mais ça c'est des révolutions dans la pensée religieuse et surtout dans la pratique, même si je pense que l'homme contemporain attend franchement ce message-là qui, à mes yeux, est celui de Jésus. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être ne faut-il pas aller aussi loin que de dire qu'il faut complètement séparer foi et religion. Parce qu'effectivement, la foi, elle va s'exprimer par un humanisme, et je suis extrêmement attaché à ça, c'est-à-dire la capacité d'être un être humain qui aime son prochain. Faut-il aller à l'Église pour ça ? C'est une bonne question. Je pense aussi quand même que s'enraciner dans une tradition, s'enraciner dans des actes religieux cultuels, normalement nous aide à devenir justement des êtres humains totalement détachés de la religion. C'est un paradoxe, mais c'est que justement... on voit ça, par exemple, chez Saint Jean de la Croix, qui fait toute une analyse dans la montée du Carmel. On peut être très, très attaché même à son heure d'oraison, comme on peut être attaché à une voiture. Donc il y a des gens qui vont être d'une humeur massacrante si tout d'un coup on les dérange pendant leur heure d'oraison. Si, par exemple, c'est leur voisin qui va se suicider, bon, c'est grave. Enfin, c'est l'histoire du bon samaritain, quoi. Il y a des prêtres qui ne feraient pas des tours pour aller sauver quelqu'un. Voilà, bon. Donc tout ce problème des observances, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je me rappelle quand je suis entré au monastère, mon père était assez effondré parce que tout d'un coup, il s'est rendu compte que, par exemple, je ne pourrais plus venir lui rendre visite dans leur maison, soit dans leur appartement à Paris, soit dans leur résidence secondaire dans le Beaujolais.
Mais là, il n'y avait pas la possibilité quand même de prendre des congés pendant ces 6 années ?
Normalement, c'est la famille qui vient vous rendre visite. Voilà, c'est ça le principe. Après, il y a des dérogations dans certains cas, je veux dire, surtout aujourd'hui. Hein. Mais c'est vrai que là aussi, parfois, on peut se demander s'il n'y a pas une certaine obsession de l'observance. Mais on peut comprendre aussi que la vie communautaire ne peut pas être toujours soumise à un éclatement où les frères seraient toujours à droite et à gauche, c'est évident. En même temps, bon, par exemple, Mon frère aîné est prêtre à Paris. Quand il a été ordonné, on ne m'avait pas donné l'autorisation d'aller participer à cette fête-là. Bon.
C'est strict, hein, quand même.
Disons qu'il y a pas mal de chrétiens qui se sont posés des questions par rapport à cette décision. Alors qu'après, on m'envoie la vidéo et que je peux la regarder tranquillement au monastère, ça fait un peu bizarre. Bon, mais ça se discute, je dirais. Ça se discute. Et je pense, de ce point de vue-là, par exemple, dans la tradition protestante, Luther a certainement fait une découverte pour lui qui était vraiment libérante, qui était justement de sortir de cette espèce d'obsession de se mettre en conformité avec les règles, les préceptes que Dieu attend de nous. Non, Jésus est mort pour nous, on est libre, on est libéré, voilà, on n'a plus rien à prouver. Donc il s'agit de vivre de cette formidable liberté qui est celle de donner sa vie par amour, voilà. Bon, maintenant, il y a tout un chemin. C'est comme quand on apprend à faire du vélo. Au début, il peut être utile d'avoir des petites roues qui vous tiennent en équilibre. Arrivé à un certain niveau, ces petites roues, il faut les enlever. Sinon, quand vous prenez vos virages, vous perdez du temps. Vous ne pouvez pas vraiment vous coucher comme il faut pour aller plus vite. Je pense qu'en spiritualité, c'est pareil. Il y a des gens qui arrivent à un certain point, bon, n'ont pas forcément besoin, même peut-être même de lire la Bible. Ils l'ont tellement lu, ils l'ont tellement intégré en eux-mêmes que une parole tous les 6 mois leur suffit, ou peut-être qu'une parole pour les faire vivre jusqu'à leur mort leur suffit. Ça, je pense qu'il faut être attentif, et j'ai beaucoup découvert ça chez Madeleine Delbrel, qui insistait sur le fait que Dieu n'a pas créé la vie comme un monument. La vie, c'est un fleuve, ça bouge tout le temps, c'est une aventure, il y a des étapes, il y a ce qui est vrai à tel moment peut ne plus être vrai à tel autre. Toutes les personnes qui ont une expérience de l'amitié ou de l'amour, y compris l'amour physique dans un couple, etc., savent qu'il faut se renouveler, qu'il y a des moments où l'autre sera heureux si on l'invite au cinéma, et puis peut-être que 10 ans après, c'est de lire un roman. Et les deux choses étaient vraies, voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas transformer Dieu en une espèce de livre, ou une espèce de code, ou une espèce de morale. Dieu est complètement au-delà de tous ces conformismes. Et c'est un vrai travail pour nous, parce que c'est tellement confortable de se dire que ça y est, on a fait nos petits devoirs religieux, donc maintenant, on peut faire ce qu'on veut. Alors qu'en fait, profondément, pour être heureux, il faut être toujours dans la remise en question, et dans l'invention, dans cette incertitude qui peut nous provoquer une certaine angoisse. Mais voilà, arrive le soir, on se dit, voilà, je me suis posé toutes les questions, j'ai cherché à inventer, j'ai été imparfait, c'est pas grave, mais j'ai progressé. Tandis que celui qui se rassure faussement en se disant, voilà, j'ai fait mes 7 prières par jour, parce que 7, c'est le nombre parfait, et que c'est écrit dans le psaume 118, je sais pas si c'est l'évangile, ça. Mais bon, il m'a fallu du temps aussi pour progresser par rapport à ça. Faut respecter aussi les gens qui mettent du temps pour en arriver là. Mais je crois que l'enseignement de Jésus est assez clair là-dessus. Et s'il a été condamné pour blasphème par ses propres autorités religieuses, c'est pas sans signification. Il faut assumer ça aussi par rapport à peut-être nos amis les plus proches qui peuvent se poser des questions par rapport à notre liberté religieuse.
Alors vous manquez de sommeil, il n'y a pas d'aménagement personnel possible, vous devez donc partir du monastère de Tamier. Ça signifie en fait que vous sautez une seconde fois dans le vide en quelque sorte.
Ouais, c'est pas évident tout ça. si on m'avait dit à 20 ans, si tu pries, tu vas te trouver dans un monastère, déjà j'aurais probablement pas prié. Si après on m'avait dit au monastère, bon maintenant t'es au monastère, mais tu vas te retrouver dans une cité HLM, dans des coins que t'as jamais connus, je ne serais peut-être pas entré au monastère, bon.
Mais avant d'être dans une cité HLM, vous êtes devenu SDF.
Oui, SDF que j'aime bien traduire par « Seul Dieu est ma force ». Parce que c'est vrai que quand on n'a plus rien... Bon, alors moi, quand j'ai quitté le monastère, il faut savoir, voilà, j'étais trader, je gagnais bien ma vie avant, j'avais plus ça. Maintenant, si je veux aller sur le marché du travail, j'ai géré 15 milliards de dollars pendant 4 ans, mais après, pendant 6 ans, j'ai retourné les fromages. C'est très difficile sur le CV. Donc comment je me situe en termes de carrière professionnelle? Pas évident. Dans mon église, je n'avais pas fait mes vœux définitifs, donc j'étais prophète temporaire, c'est-à-dire en fait moine presque définitif, et tout d'un coup je ne suis plus rien. Et pour autant je ne suis pas marié, donc je ne m'appuie pas non plus, je n'ai plus de communauté, je n'ai pas pour autant de famille à moi. Il me restait encore quelques économies qui permettaient de survivre, mais rien d'important pour rebondir de manière significative, donc il fallait de toute façon se restituer sur le marché du travail. Donc tout ça, c'était quand même compliqué, hein. Faut arriver à le gérer. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que, je ne dis pas que ça a toujours été rose, mais j'ai vraiment l'impression d'être porté par une force. Je crois qu'il y a une grande joie à se dire, au moins j'essaye sincèrement de suivre ma voie, quoi. Peut-être que je me trompe, hein, mais au moins c'est sincère, quoi. Et ça, je crois que c'était quand même l'idée de me dire, bon, si c'est sincère, le Tout-Puissant, d'une certaine manière, de bien être de mon côté. Il ne faut pas paniquer. Tant que j'ai à manger tous les jours, et voilà, les choses ont progressivement émergé. Je pense que mon expérience spirituelle, ça a été de me dire, voilà, tu as été aussi capable d'être moine pendant tant d'années. Parce que, par exemple, quand je suis entré au monastère, je me disais, mais est-ce que je vais être capable de vivre comme ça, de manière dans un environnement social très différent, déjà parce que le monastère, c'était très mélangé socialement. Dans un monde rural, j'avais jamais vécu la campagne. Me dire aussi, le faire ce choix radical du célibat comme choix durable, je me disais, mais est-ce que je vais m'épanouir de cette manière? Enfin, j'avais plein de questions. Et donc, c'est vrai qu'après ce temps au monastère, j'étais quand même fort aussi de toute une expérience spirituelle qui me permettait d'avoir confiance. Cette vie quand même assez austère m'avait préparé et m'a certainement vraiment forgé à bien tenir dans l'adversité, quoi. De même que les salles des marchés, c'est aussi des lieux d'épreuve, parce qu'il faut avoir les nerfs assez solides, et que donc toutes mes expériences humaines qui peuvent a priori peut-être ne pas avoir grand-chose les unes après les autres, quand je me suis retrouvé après dans une cité HLM, j'étais quand même assez bien forgé pour encaisser des réalités un peu dures.
Henri Casson, aujourd'hui moine à la Fraternité Saint-Paul en banlieue marseillaise, autrefois trader. Alors Sabine Petermann, on l'a compris, pour lui, la vie au monastère de Tamier n'était pas possible et il a dû partir pour lui.
Oui, il nous le dit, c'est un second saut dans le vide, une nouvelle réorientation de parcours de vie qui lui demande pas mal de courage et de confiance. Mmh. Un nouveau tournant qui va le conduire cette fois à Marseille, dans la banlieue. Il nous disait hier qu'avant d'entrer à l'abbaye de Tamier, il avait une sorte de vision où il se voyait à Marseille en train de faire l'école à des enfants maghrébins, alors qu'il n'avait jamais mis les pieds dans cet endroit et qu'il n'avait pas de contact dans cet univers. Mmh. Alors cette vision s'est finalement concrétisée puisqu'il va effectivement fonder une communauté monastique en plein cœur de la banlieue nord de Marseille.
Et cette communauté monastique dans la cité, c'est ce dont il sera question demain pour la troisième édition, à vue d'esprit avec votre invité Sabine. Je rappelle le titre du livre d'Henri Casson, « Moine des cités, de Wall Street au quartier nord de Marseille », un livre paru aux éditions Nouvelle Cité et qui avait reçu le prix 2009 de littérature religieuse. Vous pouvez réécouter cette émission via notre site internet religion.rsr.ch et si vous préférez commander une copie sur CD, vous pouvez nous téléphoner au 021 318 60 70. Nous vous la ferons parvenir pour 15 francs. Au 021 318 60 70 et sachez encore que la réalisation de cette édition était signée Françoise Yenny. Votre après-midi continue sur Espace 2, il va être 17h.
Espace 2. La vie côté culture. La vie côté culture.